Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur OxyWeb dans votre émission Estoria. Vous le savez, Estoria, qui vous parle de l'histoire de notre région. Notre région est riche. Riche grâce à sa terre, grâce à ses femmes et à ses hommes qui, au long des siècles, en ont fait ce pays dans lequel nous aimons vivre. Je parle bien sûr de l'Occitanie. Au cours de l'émission précédente, vous m'avez suivi au XIVe et XVe siècle dans le Midi toulousain à la découverte du pays de Cocagne, c'est-à-dire de ce pays enrichi grâce à la culture du pastel. Tout autre chose aujourd'hui. Nous allons partir naviguer sur le canal du Midi. Nous allons découvrir ce canal où la lenteur est un mode de vie et le silence une vertu. Ce canal, inscrit depuis 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, fait depuis le règne de Louis XIV, le roi Soleil. Donc je disais que ce canal fait l'orgueil de notre pays et plus particulièrement de l'Occitanie. Au début de sa construction, en 1666, il fut dénommé Canal Royal de Languedoc. Et ce n'est qu'en 1789, au moment de la Révolution française, qu'il sera rebaptisé Canal du Midi. Mais souvent, lorsqu'on parle du Canal du Midi, on pense au canal qui relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Mais au sens strict, le Canal du Midi désigne seulement la partie réalisée de Toulouse à la Méditerranée. Il existe effectivement un autre canal qui, lui, permet d'aller de Toulouse à l'océan Atlantique. Ce canal est appelé le canal latéral à la Garonne. Dans un premier temps, je ne vous parlerai que du canal du Midi, mais je vous promets, ensuite, nous irons découvrir le canal latéral à la Garonne. Et ainsi, la boucle sera bouclée et nous pourrons effectivement relier le canal du Midi au canal latéral à la Garonne pour n'en faire plus qu'un, le canal des deux mers. Le canal des deux mers qui permet de relier effectivement la Méditerranée à l'océan Atlantique. Ce canal des deux mers, vous l'aurez bien compris, est formé, donc, je le répète, par le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne. Mais revenons au canal royal de Languedoc. L'idée de creuser un canal qui relierait la Méditerranée à l'Atlantique est une idée très ancienne. On a imaginé pour creuser ce canal de nombreux projets utopiques, je dirais même farfelus. Mais déjà, il y a fort longtemps, l'empereur romain Auguste, qui régna à Rome entre les années 27 avant Jésus-Christ et les années 14 après Jésus-Christ, y avait pensé. Néron même, l'incendiaire de Rome, y pensa également. Mais plus près de nous, si je puis dire, Charlemagne, François Ier, Charles IX et Henri IV y songèrent, et cela pour des raisons à la fois politiques et économiques. Stratégiquement d'abord, construire une telle liaison permettait d'éviter aux bateaux de commerce et aux bateaux du roi de contourner l'Espagne, d'où déjà un gain de temps. Mais il s'ajoute autre chose, car en plus du temps gagné, on pourrait, grâce à ce tunnel, éviter les dangers rencontrés en mer lors de cette longue navigation autour de l'Espagne. Il n'est pas rare de trouver des brigands, mais en fait, un peu comme maintenant, sur certaines mers. À l'époque, c'était les barbaresques. Ils naviguaient en Méditerranée entre les côtes marocaines et la Libye. Et à l'occasion, ils s'emparaient des cargaisons et emmenaient même les marins prisonniers comme esclaves sur les côtes de l'Afrique. D'ailleurs, entre 1500 et 1800, certains historiens évaluent, donc pendant ces 300 ans, évaluent le nombre de marins faits prisonniers et devenus esclaves à plus d'un million, quasiment un million et demi de marins devenus esclaves. Revenons à notre canal. Dès le XVIe siècle, certains projets, réalistes d'ailleurs, sont présentés d'abord au roi François Ier. En 1539, on sait, grâce à des maîtres niveleurs employés par l'évêque de Sisteron, que le seuil de Neurouze est le plus haut lieu qui soit sur le chemin entre Toulouse et la Méditerranée, c'est-à-dire sur le chemin que devra suivre le canal. Les eaux se partagent à Neurouze en prenant leur chemin. Soit elles descendent vers Toulouse, soit elles descendent vers Carcassonne. Cette même année, en 1539, un premier projet est présenté par Nicolas Bachelier aux États de Languedoc. Qui est Nicolas Bachelier ? Eh bien, c'est un maître maçon, ingénieur, architecte et sculpteur, dont d'ailleurs je vous ai déjà parlé. Il est né à Arras en 1487 et est mort à Toulouse en 1556. C'est lui qui a réalisé en midi toulousain, à l'époque où le pastel a enrichi la ville, de magnifiques réalisations, et que je ne pourrai pas toutes vous citer ici, mais je vous en ai déjà cité un certain nombre. Je reciterai l'hôtel de Bernuit à Toulouse, le portail du Capitole de Toulouse, l'hôtel du Vieux-Raisin, l'hôtel d'Assesa, et de nombreuses constructions aussi somptueuses les unes que les autres. Mais le projet de Nicolas Bachelier ne tient pas la route et il ne sera pas retenu. Le temps passe. Et en 1598, nous sommes maintenant sous le règne d'Henri IV. Henri IV, d'ailleurs, aimerait voir lui aussi arriver à faire la réalisation de ce canal. Eh bien, il donne pour mission au cardinal de Joyeuse le soin d'étudier la possibilité de la réalisation d'un tel canal. Qui est le cardinal de Joyeuse ? François de Joyeuse a été nommé le 20 octobre 1581, écoutez bien, à 19 ans, archevêque de Narbonne, et il a pu être nommé archevêque de Narbonne grâce à une dispense papale parce qu'il n'avait pas encore atteint l'âge canonique. À 21 ans, le 12 décembre 1583, il est fait cardinal. Il devient archevêque de Toulouse un peu plus tard, le 4 novembre 1588, et le Parlement de Toulouse le nomme en 1592 gouverneur de la ville de Toulouse. Donc c'est à ce titre-là que le cardinal de Joyeuse va s'intéresser éventuellement d'un projet de canal. À sa demande, un deuxième projet de canal est présenté en 1598 par Pierre Renaud. Ce projet consiste à réunir la Garonne et l'Aude, les deux rivières, en utilisant les eaux de l'Ariège, en passant de l'Aude à la Garonne au moyen des eaux qui descendraient des Pyrénées, donc de l'Ariège. Mais le projet de Pierre Renaud n'est pas retenu, car des contraintes techniques rendent le projet irréalisable et surtout, c'est là le gros problème, ne permettent pas le franchissement du seuil de Neurouze. Bon, Henri IV est assassiné, comme vous le savez, en 1610. Louis XIII monte sur le trône, mais l'idée d'un canal reliant les deux mers est toujours d'actualité. Troisième projet, nouveau projet en 1617, c'est un projet qui est présenté aux États de Languedoc par un certain Bernard Arribat de Béziers. Mais finalement, aucun de ces trois projets ne pourra être retenu. Mais pourquoi ? Parce qu'aucun de ces projets ne résout le problème de l'alimentation du canal en eau. Ils proposent tous un système de dérivation des eaux, provenant essentiellement des rivières pyrénéennes, mais cet système est impossible à mettre en fonctionnement pour le passage du seuil de Neurouze. En 1650, un ingénieur a une idée pour résoudre le problème, pense-t-il. D'après lui, on va détourner l'eau de la rivière Ariège à Sainte-Gabelle et par un canal, on l'amènera jusqu'à Pêche-David, près de Toulouse. Seulement voilà, lui aussi ne donnera pas la façon par laquelle il pense pouvoir franchir le seuil de Neurouze. Et je vous le rappelle, c'est le point le plus haut à franchir, c'est le point décisif pour descendre vers la Méditerranée. C'est ballot, et quand même. on en arrive à conclure finalement que ce projet de canal est impossible à réaliser. Et on est prêt à l'abandonner quand un percepteur de la gabelle, Pierre-Paul Riquet, va proposer un projet qui, lui, semble pouvoir tenir la route. C'est l'archevêque de Toulouse, Charles-François d'Anglure de Bourlemont, qui va aller présenter ce projet au roi Louis XIV en 1662. Le roi, comme nous dirions aujourd'hui, achète immédiatement ce projet, car il y voit une excellente façon de priver l'Espagne d'une partie des ressources prélevées sur les bateaux qui transitent autour de la péninsule ibérique, et en même temps, pour lui, la possibilité de faire passer, grâce à un canal assez large, les galères royales qui, à ce moment-là, éviteront de passer par Gibraltar. Sur un plan économique, cela en plus va enrichir le Languedoc en permettant de développer le commerce du blé. Mais Louis XIV voit plus loin. Quelle belle occasion de marquer son règne d'un monument qu'il juge déjà impérissable. On voit déjà poindre le roi Soleil. Maintenant, qui est Pierre-Paul Riquet qui a l'audace de présenter au roi un projet de canal dont on parle depuis des décennies sans jamais avoir pu trouver une solution viable? Eh bien, Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, né à Béziers, à une date qui est imprécise. Pour certains, c'est en 1604, 1608, mais plus probablement le 29 juin 1609, compte tenu qu'il est mort à Toulouse le 1er octobre 1680 et que sur son acte de décès, on lui attribue l'âge de 71 ans. Son prénom, de Pierre-Paul, viendrait du fait que le 29 juin est le jour de la fête des saints Pierre et Paul. Possible. Pierre-Paul est le fils aîné de Guillaume Riquet, notaire, puis procureur à Béziers, mais surtout un homme d'affaires qui a fait partie du conseil des 30 de Béziers. Cet homme est un très habile financier. Il a très vite constitué une très grosse fortune et qui lui vaut une réputation que nous dirons aujourd'hui douteuse. Enfin, la famille Riquet prétendait descendre d'une famille provençale, les Riquetti, qui eux-mêmes se réclamaient d'un certain Gerardo Arrighetti, aristocrate florentin exilé en France à la fin du XIIIe siècle. Le nom se serait ensuite transformé en Riquetti puis en Riquet. Bon, selon la légende familial, il aurait, et là je parle au conditionnel, fait des études plutôt sommaires et courtes au collège jésuite de Béziers, l'actuel lycée Henri IV. Mais là aussi, rien n'est prouvé. De la même façon qu'il a été dit qu'il aurait fait des études d'ingénieur. Lui-même admettra plus tard n'avoir jamais reçu une telle formation. Une chose est sûre, il va se marier probablement en 1638 avec Catherine de Millau, fille d'un bourgeois de Béziers. Il aura 7 enfants, dont 2 ou 3 moururent en bas âge. Grâce à l'influence et à l'argent de son père, il devient gabellou dans l'administration des gabelles, c'est-à-dire il devient percepteur de l'impôt sur le sel. Doué de nombreuses qualités, énergique, tenace, audacieux, enthousiaste, observateur et imaginatif, il fait rapidement une magnifique carrière. Successivement, il sera grainetier au grenier à sel de Mirepoix, de 1639 à 1641. Par la suite, il devient receveur du même grenier à sel en 1645, sous-fermier des gabelles de Mirepoix et Castres en 1647, et puis en 1661, fermier général de Languedoc, Roussillon et Cerdagne. Vous le comprenez, il s'enrichit notablement. En plus, il est entrepreneur du transport de sel entre les entrepôts de Narbonne et les greniers à sel du Haut-Languedoc. Cette fortune lui permet, en 1651, d'acheter la seigneurie de Bonrepos près de Verfeil, au nord-est de Toulouse. C'est une propriété constituée de 150 hectares, de terre et d'un château Renaissance qu'il fera démolir en 1660 pour le reconstruire selon la mode architecturale de l'époque. La commune de Bonrepos, devenue Bonrepos-Riquet depuis 1921, est toujours fière de son château, entouré d'un parc et d'un jardin à la française. À la mort de Riquet, son fils, Mathias, baron de Bonrepos, achèvera les travaux de construction. Le château aura ensuite des fortunes diverses et de nombreux propriétaires, mais enfin, il devient la propriété le 28 décembre 2007 de la commune de Bonrepos-Riquet. Mais revenons à Pierre-Paul. Grâce à une nouvelle fonction très lucrative, devinez, il devient munitionnaire des armées du roi en Catalogne. Il voit de nouveau sa fortune augmenter, mais augmenter dans de grandes proportions. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi et comment un homme aussi occupé a-t-il pu avoir l'idée de se lancer dans un projet de liaison entre les deux mers ? Projet qui, je vous le rappelle, à l'époque, semble insolu. Eh bien, c'est à cette question que je répondrai lors de notre prochaine rencontre sur OxyWeb dans l'émission Historia. À très bientôt.